De nombreuses manifestations participent en cette fin d'année du 25e anniversaire de la révolution de velours quand s'effondra en 1989 le régime communiste tchécoslovaque. En France, cette commémoration a par exemple pris les traits d'un cycle de projections-débats à l'initiative notamment du festival à l'Est du Nouveau. Dans ce cadre, l'écrivain universitaire français Jean-Yves Potel, dont l'intérêt pour l'Europe centrale et de l'Est remonte aux années 60, était invité à participer à une discussion dans un cinéma rouennais fin novembre, faisant suite à la projection du film All That I Love du réalisateur polonais Jacek Borczuk. Car Jean-Yves Potel a également joué un rôle pour le soutien au mouvement dissident en Tchécoslovaquie et ailleurs, un engagement qu'il a évoqué au micro de Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Je pense qu'en France aujourd'hui, on garde un souvenir quand même assez fort de 89 et de l'ensemble des mouvements qui sont passés à ce moment-là. On a plutôt une image qui est très positive. Donc, par exemple, en ce qui concerne la Pologne, on a l'image de Solidarność plus les élections libres, et la révolution de velours reste quand même très bien dans l'esprit. Bon, maintenant, on se pose des questions sur ce que sont devenus ces pays.
Et à ce sujet, quelles étaient les questions, quelle était la teneur des propos qui ont été tenus dans le débat après la projection du film All That I Love lors de cette conférence of the Wall?
Oh, on m'a surtout posé des questions sur le contexte dans la jeunesse, c'est-à-dire en fait. All That I Love est un film qui parle des jeunes dans la musique se radicalise, protestent contre le régime indirectement dans les années 80. Donc c'était plutôt une discussion sur la manière dont la jeunesse s'est investie dans la musique, le punk, etc. et a effectivement participé à cette prise de conscience générale qui a abouti à 89. Donc c'était ça les discussions, c'était comment est-ce qu'on vivait sous ce régime, quelles étaient les marges de manœuvre des gens, est-ce qu'on pouvait vraiment faire de la musique librement, etc.
Vous-même, vous avez été un acteur, un témoin de l'atmosphère dans les pays d'Europe centrale dans les années 80. D'où vous vient votre intérêt pour ces pays?
Enfin, j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 70 et 60, mais dans les années 70, il y avait tout un courant en France de gens qui soutenait ce qu'on appelait les dissidents. Et donc j'étais un des animateurs d'une revue qui publiait ces textes. J'ai fait beaucoup de choses dans les années, milieu des années 70. Et donc normalement je me suis retrouvé à Prague au moment du procès de Havel en 79. Je me suis retrouvé en Pologne à 80 au moment de Gdansk. Et j'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé dans tous ces pays jusque je suis allé en Allemagne, je suis allé en Hongrie, en Russie soviétique, en Tchécoslovaquie, et je suis allé un peu partout, et même en Yougoslavie beaucoup, et j'ai suivi ce qui se passait dans toute cette région pendant toutes les années 70, 80 et 80, et après 90-2000 aussi.
Alors vous l'avez mentionné, vous avez participé à une démonstration de soutien à Václav Havel et à Petr Hůl en 1979. Ce qui vous a valu d'être expulsé de Tchécoslovaquie, vous pouvez nous raconter un petit peu ces événements?
Bien, c'est quand il y a eu ce procès, qui était le procès du VONS, qui était un organisme de défense des personnes injustement condamnées, qui était effectivement animé par Petr Hůl et Václav Havel et quelques autres. Bon, j'étais à l'époque un des temps d'un comité qui existait à Paris, qui s'appelait le comité du 5 janvier, qui était un comité qui s'occupait du soutien aux dissidents tchèques. Et avec d'autres comités, nous avons organisé une manifestation de solidarité. Donc je suis allé là-bas, j'étais un des organisateurs de cette manifestation, et nous avons fait venir, pour le jour J, c'est-à-dire le jour du verdict, nous avons fait venir des intellectuels connus, il y avait Patrice Chéreau notamment, et Jean-Pierre Faye, et nous les avons fait venir pour manifester devant le tribunal. Et donc, il n'y avait personne dans les rues, mais il y avait une dizaine de personnes qui sont mises à manifester avec des pancartes. Moi, j'étais dans les coulisses, j'étais un peu l'organisateur de cette manifestation, et lorsque ça s'est terminé, la police n'est pas intervenue, et nous avons été ensuite arrêtés une heure ou deux après, et nous avons été interrogés toute la nuit, reconduits à la frontière, et quand nous sommes arrivés à Paris, il y a eu effectivement ça a donné un effet médiatique très important. Et je suis celui qui a ramené, disons, le contenu du procès, parce que moi j'avais à l'époque des contacts très privilégiés avec Anna Shabatova, qui était la femme de Petr Hůl, mm-hmm. qui m'envoyait qui me donnait des détails sur le contenu du procès. Et donc, ensuite, j'ai écrit un article, on a fait des conférences de presse, et on a raconté ce qui s'est passé dans le procès. Et ce qui a fait que, d'ailleurs, ensuite, Ariane Nouchkine, qui était aussi très impliquée là-dedans, c'est l'époque qu'on a créé l'AIDA, l'Association internationale de défense des artistes indépendants, a organisé une sorte de représentation du procès, qui a été une façon de soutenir Havel et ses amis. On a également organisé ensuite beaucoup de choses pendant des années, des mois. On avait fait une nuit à Avignon en 83, je crois, au Festival d'Avignon, qui était entièrement consacré à Havel. En fait, c'était un mouvement qui était assez important, qui existait en France, enfin, qui était pas très... Il a été très fort après 80 avec Solidarność, mais il existait déjà avant sur la Tchécoslovaquie, qui est un pays et Václav Havel est particulièrement était assez connu, et on les soutenait en France. Et bon, à cette époque, j'ai effectivement essayé ensuite de retourner en Tchécoslovaquie, ce qui était impossible. Il a fallu attendre que Havel soit président de la République pour que je puisse revenir à Prague.
Alors Anna Chabotova est aujourd'hui médiatrice de la République, c'est-à-dire que dans les années 80, vous n'avez pas pu retourner en Tchécoslovaquie. Est-ce que vous aviez toujours alors des contacts poussés avec peut-être la dissidence ou
oui,
des intellectuels de ce pays?
Oui, parce que il y avait cette revue qui s'appelait l'Alternative, et qu'on publiait tous les textes de la dissidence. On a publié beaucoup de choses, et on a fait d'ailleurs, par exemple, on a mené en France une campagne pour tous ces dissidents. Par exemple, un personnage important aussi et qui a quitté la Tchécoslovaquie à ce moment-là, qui est Karel Bartošek, avec qui on était très liés, et qui est venu ensuite dans notre revue, et qui a d'ailleurs, quand la revue L'Alternative s'est arrêtée, qui était faite avec des bénévoles, il a reprise sous le nom de La Nouvelle Alternative. Donc on a eu toute une continuité, il y a eu la continuité, bien sûr, on n'allait pas en Tchécoslovaquie, mais d'autres y allaient, et on était au courant de ce qui s'y passait.
Est-ce que vous avez senti arriver ces révolutions, ce changement de régime de 1989?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire aujourd'hui que, disons, dans le milieu des années 80 ou début des années 60 ou dans les années 70, on pensait que le système communiste allait s'effondrer complètement. Ça, on n'y croyait pas, on n'y pensait pas. Mais il y avait quand même à l'époque deux options. Il y avait ceux qui croyaient que non seulement il ne s'effondrerait pas, mais qu'il se renforcerait, et qui, s'appuyant sur, par exemple, l'intervention soviétique en Afghanistan ou la mise au pas de Solidarność par le général Jaruzelski, considéraient que le totalitarisme communiste était irréversible et qu'on pouvait finalement tout était vain, ou de toute façon il fallait s'y attendre à avoir des générations encore avec ce système. C'était un mouvement qui était très fort, et face à ce mouvement très fort, il y avait des gens comme nous et d'autres qui pensaient que non, on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait contester ce régime, et que justement la charte 77, le corps, les mouvements en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et ailleurs, et même en Russie, montraient qu'il y avait un espace de contestation, qui était un espace de contestation important, qui permettait de faire beaucoup de choses, et notamment Solidarność. Alors évidemment, on n'espérait pas que ça aille si vite, mais on ne pouvait pas le prévoir, mais on était plutôt la frange que d'aucuns caractérisaient de trop optimiste.
Si vite, on dit justement souvent que la révolution ou le changement de régime, la chute du communisme en Pologne a mis 10 ans, qu'en Hongrie cela a mis 10 mois, et qu'en République tchèque, en Tchécoslovaquie à l'époque, cela a mis 10 jours.
Ça, c'est une... Oui. Formule journaliste qui n'a pas de sens, parce que le processus d'effondrement du système, il commence à la fin des années 80, 87, 88, il commence en Pologne, mais il ne commence pas qu'en Pologne, il y a des mouvements qui se passent par exemple même en Yougoslavie, comment ça se passe des choses, et c'est un processus qui va être long, et qui est différencié, qui va aller jusque grosso modo à l'effondrement de l'Union soviétique en 91, donc il ne faut pas, c'est une formule journalistique, mais il y a eu le facteur central de l'effondrement si rapide, ça a été bien sûr ce qui s'est passé au centre, c'est-à-dire à Moscou, et à l'effondrement du régime lui-même. Donc à partir du moment où l'emprise soviétique sur l'Europe centrale n'avait plus de lieu d'être, effectivement, les sociétés se sont réveillées très vite. Mais les germes de cette contradiction étaient présents depuis très longtemps dans tous ces pays. Et il y avait dans tous ces pays des tensions et des régimes qui étaient finissants. Et donc on a assisté à cet effondrement. Mais il ne faut pas oublier que l'effondrement de 89-90, c'est pas que la chute du mur. Mmh. C'est bien sûr une série d'États qui sont devenus des États démocratiques et qui se sont qui sont rentrés dans l'Union européenne. Mais il y a aussi la guerre qui est revenue en Yougoslavie, et l'éclatement de la Yougoslavie par la guerre. Il y a aussi des régimes autoritaires qui sont nés. Je pense pour le au régime Poutine. Ça, il y a plusieurs endroits où ça, où c'était à deux doigts de tourner comme en Russie. Je pense à la Roumanie, un moment où c'était, ou même l'Albanie, où ça a été extrêmement difficile. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir une vision anecdotique, si vous voulez, de cet événement. C'est un événement qui est un événement très compliqué, très difficile, et qui a coûté très cher aux gens.